quel est le mot pour nous nommer, nous tous, toutes, tous, sans genre, sans origine, sans religion, sans couleur, sans haine et sans inquiétude de partout. Nous dire sans se définir. Y a-t-il un mot commun pour raconter êtres et choses qui sont au monde ?
Pascal Paradou.
Inventer un nouveau monde, une langue commune, créer une utopie dans un coin du monde déchiré par la guerre, telle est l'ambition de Yara El-Hadban et le sujet de son nouveau roman La danse des flamants roses. Bonjour Yara El-Hadban.
Bonjour.
Vous vivez au Québec, vous êtes de passage à Paris et vous nous racontez une histoire de Palestine. Alors, comment vous nommez, puisque la question de la nomination est très importante dans votre livre?
En fait, je voulais un mot qui rejoignait tout le monde, et les humains et les non-humains, au-delà de la frontière, au-delà de tout. Donc je parle de vivant. Nous sommes vivants. Et voilà, et la Palestine devient ce lieu de la vie, ce lieu où la vie se transforme et recommence, et sur un autre ordre, en fait, du monde, de l'existence et du vivre ensemble.
Donc je peux dire, j'ai rencontré une vivante.
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui.
Pas j'espère. Plus.
Vous n'avez jamais vécu en Palestine ?
Non, mais en fait, je connais très bien la Palestine, puisque j'y vais à tous les ans depuis que j'ai mon passeport canadien. Avant ça, avec mon document de réfugié, je ne pouvais pas y accéder. Et donc, j'ai beaucoup d'amis là-bas. La belle famille est là-bas, des collègues. J'ai fait des recherches là-bas aussi, avec des musiciens, des artistes. J'ai beaucoup, beaucoup de liens avec la Palestine.
Oui. Vous vous dites palestinienne ? Ou québécoise, ou canadienne.
Ah non, j'aime pas les choix. Je vois pas pourquoi je dois sélectionner. Je suis à la fois ça et tout. Je suis en fait québécoise depuis 35 ans maintenant, et fièrement québécoise, et je suis fièrement palestinienne. Et je pense les deux dialogues, les deux. En fait, j'aurais pas pu écrire la Palestine en français si je n'étais pas québécoise.
Oui, il faut ces voyages, il faut ces traversées pour raconter ce pays.
Tout à fait, tout à fait. Il y a toutes ces langues-là qui sont en moi. J'écris en français, en arabe, en anglais, et tout ça, ce sont des bibliothèques auxquelles j'ai accès, des bibliothèques de l'imaginaire qui me permettent d'imaginer la Palestine autrement.
Mais vous vous sentez en exil ?
Oui, je pense d'une certaine façon, parce que en fait, rentrer en Palestine, je rentre à titre d'étrangère, alors que toute ma famille, mes ancêtres sont là-bas, et la situation est très difficile en ce moment, et donc je suis extrêmement touchée par tout ce qui se passe, et extrêmement en colère, je dois le dire, mais j'essaie toujours de regarder vers l'avant. Je me dis, je ne devrais pas laisser l'actualité dicter ce que moi je voudrais rêver et imaginer pour les Palestiniens et pour la Palestine. Et je considère la Palestine comme faisant partie du monde et de l'humanité. Et donc, c'est dans ce sens-là que je me sens aujourd'hui. En fait, franchement, je me sens exilée de l'humanité même. Et par rapport à tout ce qu'on voit d'humanité, de inhumanité. Donc, c'est plus que simplement une identité nationale. C'est vraiment une question existentielle. Qu'est-ce qui nous fait humains aujourd'hui face à ce génocide qu'on voit ?
Mais ce qui se passe en Palestine, à Gaza notamment, mais aussi en partie en Cisjordanie, est-ce que cela renforce votre appartenance ?
Oui, en fait, c'est pas une question de degré ou de mesure, ou ça a toujours fait partie de moi. Toute mon écriture raconte la Palestine. Ça, c'est cette expérience d'être né réfugié, d'avoir dû émigrer, d'avoir dû changer de pays plusieurs fois. En fait, ça m'a formée. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans cette expérience-là. Donc, c'est pas une question simplement de vivre sur le sol. C'est comment cette identité a modelé votre vision du monde et votre perspective sur le monde.
Dans votre roman, Yara El-Hadban, vous écrivez « La Palestine m'habite, par la voix de ma mère. C'est-à-dire que c'est elle qui vous a raconté d'abord cette, cette terre, cette culture.
Oui, ma mère, mon père, mes grands-parents, et, toutes les histoires qu'elle me raconte, elle vit en moi, en fait, à travers ces histoires, à travers leurs expériences aussi. Ma grand-mère, qui, en fait, a été forcément déportée en 1948 avec mon grand-père, mon père qui a grandi dans un camp de réfugiés, ma mère qui est née dans un camp de réfugiés, tout ça fait partie de qui je suis et des histoires que l'on raconte. Et moi-même, je les raconte à mes enfants, tout en ajoutant pour elles leurs propres expériences en tant que Québécoise, Montréalaise, et voilà, et qui aujourd'hui s'engagent comme citoyennes pour l'humanité et contre tout ce qu'on voit aujourd'hui d'inhumain et de violence.
Et quand vous dites Palestine, Yara, vous pensez à quel territoire ? Est-ce que vous comprenez Israël ?
Ah, mais c'est certain. Écoutez, comme j'ai dit, ma belle, en fait, mon mari est palestinien-israélien. C'est une réalité. J'ai pas de... En fait, je ne suis pas dans cette histoire de négation de l'existence de l'autre pour exister soi-même. Je pense qu'au contraire, c'est tout le problème de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de nier même l'existence et l'expérience et l'histoire des Palestiniens. Alors comment puis-je, moi, le faire ? De mon côté, je suis complètement contre ça. Je suis complètement contre une vision construite de frontières, de limites, d'altérité, de degrés, d'appartenance, de souffrance. Tout ça pour moi, ça m'emprisonne comme humaine et comme écrivaine. Je pense, c'est pourquoi je voulais écrire La danse des flamants roses, pour dire, écoutez, il y a une autre façon qu'on peut imaginer cette terre-là, qui a toujours été une terre qui a accueilli toutes sortes de civilisations. Ça fait la richesse de cette terre-là. Donc c'est dans cette vision-là que j'ai écrit La danse des flamants roses.
Et un des personnages du roman dit que l'histoire s'écrit à plusieurs mains.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, dans...
Vous avez combien de mains ?
Oh bon, mais autant qu'on veut m'en donner, je tends la main et j'espère que la main sera tendue vers moi aussi.
Yara El-Rabban, vivant au Québec, vous devez la connaître mieux que nous car elle est québécoise. C'est Claude Pelgag qui annonce un quatrième album pour le mois d'octobre avec en avant-première ce titre intitulé « Sans visage ».
Sans dommage, je
chanteuse québécoise Claude Pelgag sur RFI et Raël Gadban. Vous la connaissez, cette
En fait, très peu, mais écoutez, j'aime beaucoup cette voix. Moi, je suis très... En fait, j'aime beaucoup les chansonniers, j'aime beaucoup quand c'est de la poésie avec une voix, un instrument, et puis voilà. Je suis très traditionnelle à ce niveau.
Raël Gadban, aujourd'hui, notre invitée pour son nouveau roman, le quatrième, La danse des flamants roses, qui est, disons-le tout net, un roman d'anticipation, une dystopie poétique. Et vous nous racontez la fin du monde, rien que ça, sur les bords de la mer Morte.
Ah, mais vous êtes pessimiste. Moi, je voyais que c'était une utopie et puis que je raconte le début du monde. Hein.
Vous racontez les deux, en fait.
Oui, c'est vrai. Et je raconte la fin pour raconter le début. Et je le vois, effectivement, d'abord, ça commence par une dystopie. Mais l'idée, c'est de construire véritablement une autre vision du monde. C'est pour moi un roman résolument utopique. Et je voulais vraiment projeter la Palestine dans la vie et dans l'avenir, contre et malgré tout. Donc, voilà. Mais il fallait commencer par la fin, quoi, pour recommencer.
Oui, mais pour l'utopie, il faut passer par la catastrophe, il faut passer par la fin du monde,
oui.
Puisque ce pays, cette zone du monde, dans votre roman, est ravagée par une maladie qui s'appelle la maladie du sel. Mmh. Toute l'eau de la mer Morte s'est évaporée et tout le monde meurt de cette maladie un peu mystérieuse que vous appelez la maladie du sel.
Tout à fait.
C'est une pure imagination.
Pas trop, non. En fait, il faut savoir que le roman, c'était très important pour moi que le roman soit ancré dans la réalité et dans la vérité. Et la vérité, c'est que la mer Morte est en train de s'évaporer et que c'est par la main des humains que ça se passe. C'est pas à cause du changement climatique et que si on fait rien d'ici 50 ans, ça se peut très bien que la mer disparaisse. Et on sait très bien que quand ces ondes-là, ces protections, ces surfaces disparaissent, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait ressortir. D'ailleurs, on parle des glaciers et puis qu'est-ce qui pourrait ressortir comme microbes préhistoriques après la fonte des glaces. Donc, je suis partie de cette idée-là et je me suis posé la question qu'est-ce qui resterait après l'évaporation de la mer Morte. Et je voulais partir d'un lieu qu'on associe beaucoup à la mort. On l'appelle la mer Morte parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de vie, en fait, dans cette mer-là, pour dire non, au contraire, c'est un lieu plein de vie. Donc, c'est un jeu sur la vie et la mort et je voulais un peu contredire la nomination de la mer.
Et vous nous racontez donc l'histoire d'une cinquantaine de personnes qui ont survécu à cette maladie. C'est un roman de survivants et là, forcément, ce mot-là fait écho à l'actualité de cette région, même si rien ne le dit très précisément.
La vérité, c'est que j'ai écrit ce roman bien avant le génocide et j'ai failli, en fait, j'étais en train de mettre les dernières touches sur le roman quand tout est arrivé et j'ai failli changer le roman parce que j'étais tellement, en fait, découragée. Et je me suis dit après non, c'est ce que j'ai imaginé et je vais rester fidèle à ma vision et c'est pas vrai que je vais accepter que c'est le destin des Palestiniens de continuellement vivre assassinés, colonisés, occupés et puis dans ce rapport violent avec l'autre, je n'accepte pas ça. Et donc j'ai considéré que c'est mon travail, c'est ce que j'avais imaginé et je voulais en fait transmettre autre chose à mes enfants. Et c'est pourquoi, dans le roman, en fait, il y a les enfants jouent beaucoup un rôle. Il y a trois générations, d'ailleurs, dans le roman, parce que je voulais vraiment cette projection vers l'avenir.
Il y a trois générations, et puis il y a surtout ces flamants roses.
Oui.
Qui sont les jumeaux des humains. Et bien sûr, on peut se demander pourquoi les flamants roses et vous donner une piste. Ce sont des oiseaux altruistes.
Oui, en fait, ce sont des oiseaux grégaires, des oiseaux. Et il y a, en fait, j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur les vivants, sur les animaux et les flamants. En fait, je les ai rencontrés très très loin. Je les ai rencontrés au Chili, dans le désert de l'Atacama, qui, contrairement à la mer Morte, c'est le désert le plus haut de la planète et le plus froid. alors que la mer Morte, c'est le point le plus bas de la planète. Et c'est là-bas que j'ai vu ces flamants qui vivent dans des conditions très toxiques pour les humains, et ça m'a fascinée. Et je me suis dit, ah, voilà que la vie peut ressurgir des lieux les plus difficiles. Et donc, ils sont devenus un peu mes personnages, mes symboles de la vie dans la mer Morte. Et après ça, ça tombait bien, parce que les flamants, en fait, dans la vérité, s'arrêtaient historiquement en Palestine durant leur migration depuis l'Afrique jusqu'à, en fait, le sud de la France. Et donc, je me suis dit, ah tiens, si jamais les Flamands décident de rester, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Et ils deviennent alors les compagnons de ces survivants.
Et ils en sont même à nourrir les enfants qui naissent d'un lait rose.
Oui, oh, oui. Bon, les biologistes vont peut-être protester, mais voilà, je suis écrivaine, je me permets tout. Et j'aime beaucoup parce que ce sont vraiment des oiseaux grégaires qui vivent ensemble, qui élèvent leurs poussins ensemble et qui ont un mode de vie justement qui est pacifiste. C'est-à-dire qu'ils pondent leurs œufs dans les eaux saumâtres justement pour rester loin des prédateurs. Parce qu'ils ne veulent pas, en fait, ils veulent pas avoir à confronter les prédateurs. Et j'ai beaucoup aimé cette autre façon de vie. On peut dire qu'ils ont peur ou qu'ils sont lâches, mais moi je me dis, mais non, ils optent pour la vie. Et puis ils sont très forts parce qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un bel exemple pour les humains.
Et ainsi, vous nous racontez l'histoire d'Aleph. C'est le premier enfant qui naît dans cette communauté de survivants après la maladie du sel. Bon, il n'échappera pas à la violence du monde, hein, on peut le dire, c'est la fin du roman. Mais surtout, il est donc jumeau avec un oiseau, un flamant rose, qui ont la caractéristique, ces flamants roses, de perdre leurs plumes une partie de l'année avant la migration. J'aimerais, Yahal Gadban, que vous nous lisiez un extrait de ce roman, La danse des flamants roses.
Avec plaisir. Durant la mue, les flamands ne peuvent pas voler. Nous organisons des groupes de veille afin de dissuader les prédateurs opportunistes. Au début, notre présence énervait les flamands. Certains ont l'âge de se souvenir des survivants affamés qui partaient à leur chasse. Ils se moquent de notre bienveillance. Ils n'ont besoin ni du bien ni de vaillance. Ils veillaient avant qu'on sache qu'ils veillaient. Eux qui avaient su que nous étions vivants, alors que personne de l'extérieur ne l'avait su. Le caquettement de Zahr, mon jumeau, perce parmi le cœur de danseur. Je ne connais pas son vrai nom. Je ne connais pas plus le mien. Je dis Zahr, il crie Aleph, et nos voix se dissolvent de nouveau dans celles des flamands. Les flamands répètent, rappellent, désappellent, tant de noms, des noms qu'ils cancanent, crachent, piétinent, chantent, déchantent. Les noms flottent dans ma tête, les noms tombent de ma bouche. La langue des vivants tourne, ma langue la détourne. Les flamands cancanent, les hyan ricanent, les ibex piaffent tous ces noms qu'on leur a donnés sans jamais révéler leurs secrets. Nous, Rournouk, nous, flamands, qu'on m'appelle le Pelle Nouham, l'avons la vie, l'avons su, la vie, nous vivants, l'avons su. Zahre, moi, qu'on m'appelle le flamand, Warle, moi, qu'on m'appelle Ibex, Dibar, nous, qu'on appelle Ien, vivant, nous, la vallée, l'avons su. Vibration, toile, vibre, danse, sel, sous pattes, caresse, vent sur corne, odeur, fleur des proies, nous vivants, l'avons su.
Voilà le mot vivant qui apparaît, qui est déjà apparu dans votre roman, Yahal Gadban. Mais tout est vivant dans votre livre. Alors, l'écriture est vivante parce qu'elle est vibrante déjà. Mais les oiseaux sont là, ils sont vivants, ils parlent. Les plantes parlent, elles aussi. Et elles parlent une langue qui semble une langue commune.
Oui. Alors, j'ai beaucoup lu Vincent Després. avant ce roman et j'étais fascinée par tout ce qu'elle racontait par rapport au vivant, justement. C'est un mot qu'elle utilise elle aussi. Et je me suis dit, je vais imaginer
c'est
un roman.
C'est une philosophe belge,
oui,
hein, je crois,
qui parle
beaucoup en effet
oui,
de la nature.
Qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Autobiographie d'un poulpe, je crois. Et elle avait même fait des recherches sur un oiseau qui vit dans le désert en Palestine. Donc, et j'avais envie de raconter une histoire où l'humain est décentré, où c'est pas lui qui décide de tout, où il appartient véritablement au cercle des vivants. Il n'est pas l'alpha prédateur, il fait partie du cercle. Donc il n'y a pas de chef, il n'y a pas de dominant. Et la théorie que j'ai utilisée, je me suis dit que si jamais nous les humains, on décide de se décentrer, peut-être qu'on va accéder à cette langue commune qui appartient à tous les vivants et qu'on a perdu de vue, qu'on a oublié parce que justement on se détache du reste des vivants. Et voilà, et je me suis dit, si je vais raconter cette histoire avec cette perspective-là, c'était très important qu'on entende la voix des vivants et qu'on entende cette langue-là, d'où le passage un peu loufoque, un peu rythmé, slamé que je viens de vous lire.
Mais alors s'il y a une langue commune, ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre de vocabulaire? Or, on sait que notamment dans cette partie du monde, le vocabulaire, les mots utilisés sont absolument essentiels. On est dans un pays qui a changé de nom.
Dans un pays où on a changé
de langue.
Ah, c'est une belle question. Et justement, il y a un personnage dans le roman, Maïmoun, qui lui est beaucoup dans ce questionnement-là, parce que lui, il veut écrire le livre des vivants. Et lui, en fait, c'était un rabbin, et qui est d'ailleurs le père de Aleph, et il se questionne beaucoup sur l'interprétation, la traduction de cette langue-là. Et Aleph, qui lui a grandi avec les Flamands, qui lui dit, mais la traduction, ça, c'est, il n'y a que les humains qui sentent le besoin de traduire quoi que ce soit. Si vous vivez véritablement avec les vivants, il n'y a plus besoin de traduire parce qu'il n'y a plus d'écart. Donc, merci pour cette question. Oui, je voulais, et c'est pourquoi c'était important aussi d'imaginer un autre langage. Je voulais vraiment aller au-delà de tout ce qu'on imagine ou tout ce qu'on a créé dans nos têtes comme empêchement. Il n'y a pas d'empêchement au vivre ensemble si on le veut véritablement, et c'est le but de ce roman.
Vous êtes vraiment une utopiste, hein?
Avec plaisir. Et fière de l'être.
Yael Hadban, est-ce que c'est un roman ou c'est un conte?
Ah, mais c'est à vous de décider ça. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai écrit une bonne histoire. J'espère que ça serait une bonne histoire. Mais effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu la mythologie. Pour ce roman, j'ai beaucoup lu les fables. Je suis rentrée dans les épopées de Gilgamesh, les épopées de Mésopotamie, les épopées amérindiennes, en fait, pardon, autochtones des Amériques. Et je crois que ça a beaucoup teinté mon écriture là-dedans.
Je vous cite, il y a un conte dans chaque grain de sel.
Oui.
Et ça veut dire que le conte est partout.
Le conte est partout. Et si on arrive à l'écouter, écouter les grains de sel, on va peut-être arriver à d'autres visions du monde.
Alors, si on parle de conte, on peut aussi parler de poésie. Il y en a dans votre livre. Et vous recevant, ça m'a donné envie d'aller dans les archives pour retrouver la parole de Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien disparu en 2008.
Je suis un poète qui enquête d'une patrie simple, d'une patrie normale, d'une vie humaine faite de simplicité, sans héros et sans victimes. Je cherche en fait une paix pauvre. Et ce qui manque dans cette valise, c'est cette paix pauvre. Qui est en fait infiniment plus précieuse que tout le reste. Mais malheureusement, à chaque fois que nous partons en quête de cette vie simple, on nous ramène au mythe, à l'épopée et à l'héroïsme. Nous sommes fatigués de l'héroïsme. Nous ne voulons plus être des héros. De même, nous ne voulons pas être des victimes. Et voilà ce qui manque à mon poème. Ou plutôt, c'est ce qui manque dans la réalité, parce que mon poème est plein à craquer de tout cela.
Baroun Darwish, traduit par, par Elias Sambar, c'était il y a presque 20 ans sur RFI.
C'est magnifique cet extrait, je ne le connaissais pas. C'est tout à fait tout ce que j'essaie de faire.
Une paix simple.
Une paix simple, cette vie ordinaire. En fait, on ne veut pas être des héros. On veut être justement, on veut faire partie de la vie commune, de l'humanité commune, tout simplement. Et c'est ça que j'essaie. En fait, la même chose dans le roman précédent, Je suis Ariel Sharon, il y a tout un extrait sur les Palestiniens sont ordinaires. On ne veut plus être extraordinaire, on veut simplement être ordinaire et vivre une vie comme tous les autres, avec tous les autres. Et dans ce roman-là, j'ai transposé ça à tous ces vivants-là qui décident de rentrer dans le cercle de la vie et même de se défaire de leur privilège d'humain.
Mais vous savez bien qu'il y a des partis politiques et qu'il y a des extrémismes dans chacun des camps. Donc comment avoir une paix simple dans une situation comme celle que l'on connaît depuis un an ? Est-ce que vous... En étant un peu décentré, en vivant à Montréal, en étant écrivain, en faisant appel à l'imaginaire, comment vous le voyez cet avenir et est-ce que ça peut être l'utopie que vous décrivez dans le
Moi, je reviens toujours à l'histoire de cette terre-là. Cette terre-là, c'est l'une des terres habitées depuis le plus longtemps de l'histoire de l'humanité. Cette terre a été traversée par toutes sortes de peuples, de civilisations, de langues. Cette terre a toujours accueilli la pluralité. Je considère que ce qui se passe depuis 76 ans, c'est l'exception à la règle et non pas la règle. Et si on pense de cette façon-là, là, on peut imaginer des avenues. Véritablement, je vois aucunement pourquoi ce n'est pas possible. Il faut simplement reconnaître l'existence de l'autre, reconnaître les injustices et passer vers, après la reconnaissance, passer vers la réparation et comment reconstruire ensemble une vie. Mais c'est tout à fait possible. Toute l'histoire de ce pays-là le dit. L'exception, c'est les dernières 76 ans et non pas le contraire. Et c'est de là que moi j'écris toujours, toujours, toujours.
Alors, bien entendre, Mahmoud Darwish, vous rendez hommage aussi à un autre poète.
Oui, Rifat Al-Arair.
Qui a été tué, qui est mort en décembre 2023 à Gaza. Parce qu'il y a des poètes qui meurent.
Oui, non mais c'est certain. Mais ce qui est beau, en fait, son poème est devenu l'hymne de ce qui se passe. En fait, en disant « si je dois mourir, vous devez vivre pour raconter mon histoire, mais aussi pour fabriquer des cerfs-volants ». C'est ce qu'il nous a donné comme testament. Fabriquer l'espoir, fabriquer des cerfs-volants. Et c'est ce roman, pour moi, c'était ma façon de fabriquer un cerf-volant.
Vous l'écrivez d'ailleurs, ce roman est un cerf-volant.
Un cerf-volant, en fait, c'est la dernière chose que j'ai écrite. J'avais fini d'écrire et tout, et on allait déposer le livre à l'impression. Et pendant la nuit, je l'ai entendu, le poète, vraiment, qui me répétait « ce roman est un cerf-volant, ce roman est un cerf-volant ». Je me suis levée à 3h du matin et j'ai écrit « il faut mettre ça, il faut mettre ça ». N'imprimez pas le livre comme si c'était un appel de lui depuis l'autre vie et voilà, donc j'ai lancé un cerf-volant.
Donc ça c'est le début du livre, c'est pratiquement l'avertissement. Il se termine, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais il se termine sur la caresse d'un fil d'araignée,
celle qui tisse l'araignée, qui en fait c'est Aleph qui parle, mais la vraie narratrice c'est l'araignée. Et je voulais terminer toujours par ce fil d'araignée pour dire que l'histoire n'est pas finie et c'est à vous à écrire la suite.
Merci Yara El Rabban. La danse des flamants roses est éditée chez Mémoire d'Encrier, donc maison d'édition québécoise qui publie toujours des livres assez formidables dans le vôtre, mais vous êtes assez impliqué dans cette maison, il faut le dire, avec Rodney Saint-Éloi. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation, émission bien évidemment à réécouter sur RFI.fr, sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Pure Radio. Vous pouvez même vous inscrire, c'est gratuit sur cette plateforme pour ne rater aucun épisode de Vive Voix.